la Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus Angers pour une nouvelle semaine de Covidienne. On est ensemble pendant 30 minutes pour discuter de l'actualité locale. Et ce soir, pour commencer, c'est Clémence qui vous propose une petite pause pour contempler la nature par la fenêtre, puisqu'elle s'est entretenue par téléphone avec Yves Leclerc. L'auteur, essayiste et poète a en effet sorti Haïku du Japon ancien et moderne, précédé de Le Petit Grillon de Bachot. C'est sorti chez les éditions Unicité et on écoute ça sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous.
Pour lui, les haïkus sont l'art de se taire et de disparaître en beauté. Yves Leclerc, auteur prolifique avec une trentaine d'ouvrages à son actif, est notre invité aujourd'hui. Bienvenue à vous, Yves.
Bonjour à tous, bonjour Clémence.
Reprenez-moi si je me trompe, vous avez été professeur de lettres à Saumur, vous êtes maintenant à la retraite. Vous avez également obtenu un doctorat en littérature française après vos études à la Sorbonne dans les années 80. Et vous êtes donc, comme je le disais plus tôt, l'auteur de nombreux ouvrages et dont un nouveau, tout juste publié, qui s'intitule « Haïku du Japon ancien et moderne » paru chez Unicité en ce début de printemps. Donc « Haïku du Japon moderne et ancien », qu'est-ce que c'est ? C'est un livre théorique, une balade au Japon, et à qui est-ce qu'il s'adresse ?
C'est un livre qui s'adresse à tout le monde, hein, de vulgarisation, qui consiste en deux volets. La première partie, c'est une réflexion sur un des grands maîtres du haïku qui s'appelle Bachot. Et à partir d'un seul poème, j'ai écrit une sorte de méditation sur le haïku en général et à l'origine en fait. Et la deuxième partie est constituée par des exemples, c'est-à-dire des traductions de haïku du Japon ancien, c'est-à-dire du 17e, 18e, 19e siècle, et moderne, puisqu'on va à peu près jusqu'en 1950.
Donc avant que vous ayez cette volonté de vulgariser le haïku, vous trouviez que c'était un genre qui était accessible à tout public ?
Oui, ça fait, bon, pour rien vous cacher, ça fait plus de 30 ans que je réfléchis, que je travaille sur le haïku, parce que j'avais publié déjà une étude dans les années 80 que j'avais intitulée « Approche du haïku » et qui présentait le haïku à une époque où on s'intéressait encore assez peu à cette forme minimaliste. Mais c'est devenu à la mode, on va dire, au début du 20e siècle, du 21e siècle. Et moi, j'ai toujours aimé cette forme poétique particulière. Et j'avais publié aussi chez Gallimard un livre qui s'appelle « Orient intime ». Enfin, j'ai publié un livre chez Gallimard qui s'appelle « Orient intime », entre autres, et qui consacre l'une de ses parties à ce que j'appelais un Orient extrême, c'est-à-dire justement d'une part à la poésie japonaise et d'autre part à la poésie chinoise. Poésie chinoise aussi, parce que je me suis aussi beaucoup intéressé à la poésie chinoise, et j'ai même fait une émission sur France Culture consacrée à un des grands poètes Shan qui s'appelle Wang Wei.
Et la poésie chinoise, si jamais vous deviez essayer de la définir par rapport à la poésie japonaise, c'est quoi les différences ?
Bah, si vous voulez, la poésie chinoise, c'est un peu la source de la poésie japonaise, puisque la poésie chinoise dont je vous parle là avec Henri, ça date du 7e siècle à peu près avant Jésus, 7e siècle après Jésus-Christ, et non pas avant, et elle est très marquée par l'influence de ce qu'on appelle du Chan, c'est-à-dire d'une forme de bouddhisme en particulier. Or, à l'origine, la poésie japonaise du haïku qui apparaît vers le 17e siècle est une poésie qui procède d'abord d'une expérience, on va dire, religieuse ou du moins spirituelle, et qui est directement branchée sur l'expérience du bouddhisme Chan, enfin qui est en rapport avec, est une espèce d'enfant lointain, si j'ose dire, ou de descendant lointain de cette poésie chinoise. Puisque avant, par exemple, vous voyez, le haïku, qui est constitué de trois vers, dans la poésie chinoise, duquel il tire, où il tire sa source, dans la poésie chinoise, on trouvait ce qu'on appelle le tanka, qui est constitué de cinq vers. Donc, vous voyez, c'est un peu, le haïku serait un peu comme une espèce de petit-fils lointain, si j'ose dire, de cette forme, déjà brève qu'on trouvait chez les poètes chinois, comme Wang Wei, Li Po, Tu Fu, etc.
Vous dites qu'il y a eu un renouveau du haïku, enfin une nouvelle tendance du haïku à partir du début du 21e siècle. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce regain de spiritualité vu que c'est très très imprégné d'après ce que vous venez de me dire?
Oui, alors votre question est très très intéressante parce que oui, c'est très pertinent parce que je pense que c'est une forme qui répond parfaitement à la fois qui illustre et répond parfaitement à tous les problèmes et toutes les questions que se pose notre monde parce que en fait c'est une forme extrêmement brève. Donc, qui permet une lecture sous les éclairs dans la temporalité qui nous échappe, avec des emplois du temps assez, on a tous des emplois du temps assez chargés, parce que nous sommes des Occidentaux, et cette forme littéraire extrêmement minimaliste nous permet d'entrouvrir une porte de manière très soudaine et rapide, et c'est ce qui permet peut-être que, c'est ce qui fait sans doute le succès du haïku, avec aussi l'idée que le haïku est quand même, si vous voulez, il y a toujours l'idée de brièveté, donc de facilité, alors que c'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, il y a une grande simplicité et une grande fraîcheur, et je pense qu'on a besoin de cette espèce de parole débarrassée de tout ce que je suis en train de faire, de tous les commentaires, de toutes les gloses qui embarrassent un peu notre Occident, et on arrive finalement à l'essentiel, si vous voulez. Là, c'est un peu on a des mots qui sont fondamentaux, qui marquent une relation directe, simple, et je dirais une troisième chose aussi, enfin, entre autres, parce que j'en vois d'autres, mais une troisième chose aussi, c'est que le haïku traite beaucoup, enfin, s'ancre systématiquement dans une expérience que vous avez dit spirituelle, extrêmement d'illumination, soudaine, face à des phénomènes naturels, donc dans la nature, et notamment dans le rythme des saisons. Or, nous sommes dans une société qui vit derrière un peu des écrans, dans une sorte de télé-existence. Or, précisément, le haïku nous permet de retrouver ce contact direct, simple et premier et fondamental et fondateur avec la création, avec le monde tel qu'il est, l'hiver, l'été, le printemps, l'automne, etc. Et d'ailleurs, traditionnellement, le haïku, dans les anthologies traditionnelles au Japon, et c'est ce que j'ai fait pour moi aussi, est toujours constitué autour des quatre saisons, c'est-à-dire que vous avez généralement dans l'ordre le printemps, l'été, l'automne, pardon, et l'hiver. Et si vous voulez, cette proximité avec les saisons permet, enfin, rend le haïku d'autant plus sympathique, d'autant plus que il s'agit de s'ouvrir à une sorte d'émerveillement, mais une fraîcheur, mais qui n'est pas niaise. Hein, c'est une fraîcheur qui est la connaissance de la vie et de la mort par l'intermédiaire de la vie, des fleurs, des saisons, des animaux, enfin des chats, de tout ce qui nous entoure et des êtres humains aussi, parce qu'il y a il y a beaucoup de haïkus qui traitent de la vie quotidienne, toute simple.
On peut peut-être parler d'un retour ou d'une invitation à la contemplation, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est une manière de reconsidérer. Alors nous sommes, nous sommes dans une société occidentale qui est marquée par l'action, ce qui on ne peut pas non plus négliger les qualités de cette civilisation occidentale. Mais je pense que l'haïku nous donne l'envers, si j'ose dire, de décor un peu affairiste, c'est-à-dire la contemplation. Il y a une faculté, comme vous avez dit, selon l'étymologie, contempler, c'est être avec le temple, hein, c'est être dans le temple de la nature. Encore une fois, c'est pas une nature, c'est pas une nature, une nature naïve, hein, c'est une nature où il y a la présence de la vie et de la mort, hein, c'est fondamental dans la pensée japonaise. Et donc cette contemplation permet d'effacer le moi, c'est-à-dire les limites de son moi, de sa personne, et de se fondre dans ce qu'on regarde. Hein. Donc si vous voulez, c'est une manière de disparaître un peu, je disais en beauté, mais c'est ça, disparaître dans le décor, quoi. C'est-à-dire que vous faites, vous connaissez sans doute la légende du peintre chinois qui, à force de contempler et de peindre son tableau, disparaît dans son tableau. Eh bien, c'est un peu ça, le haïku, sauf que le tableau, ça serait la nature qui nous entoure, ou ça peut être une flamme dans la neige qui tombe, en ce moment les pétales de cerisier qui volent un peu avec le vent, enfin, etc.
On va peut-être revenir sur Mathieu Basho, donc ce poète japonais du XVIIe siècle qui est la figure emblématique du haïku. Comment est-ce que vous l'avez découvert, que ce soit lui ou de façon plus générale la discipline du haïku?
Comment j'ai découvert Basho? C'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer, alors vous savez, la vie est faite de rencontres dont vous n'avez pas forcément la maîtrise, mais elle est faite comme ça en tout cas, et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui se sont intéressés très tôt à la poésie orientale, et notamment Yves Bonnefoy, que j'ai côtoyé très jeune, et Philippe Jacoté aussi, qui vient hélas de nous quitter, et que j'ai aussi la chance de côtoyer, et Pierre-Albert Jourdan, autour d'une revue qui s'appelait Port des Singes, dans les années 80. Et c'est une revue qui était extrêmement tournée vers précisément l'expérience spirituelle, à une époque où on regardait avec une certaine moue, si vous voulez, le fait de considérer la poésie comme une expérience spirituelle, puisqu'on était surtout à cette époque-là tourné vers le goût du langage. Et donc ces gens-là m'ont fait découvrir Basho, le haïku, et notamment un autre écrivain que j'aime beaucoup, qui est décédé aussi, qui s'appelait Roger Munier, qui a fait une des premières anthologies du haïku, qui a paru chez Fayard, dans la collection d'ailleurs Documents spirituels, dans les années 80 à peu près. Donc vous voyez, il y avait ça, puis il y avait d'autres écrivains, notamment les écrivains de la Beat Generation, c'est-à-dire notamment Jacques Kerouac, entre autres, Gary Snyder, qui sont des écrivains qui avaient déjà traduit de leur côté aux États-Unis dans les années 60, hein, les poètes japonais.
Donc la venue du haïku est, en France, du moins, donc du coup elle est plus tardive que dans les pays anglo-saxons, c'est ça?
On peut dire que ce sont les États-Unis qui ont, ce sont des écrivains américains qui ont été les premiers à découvrir le haïku. Et après, bon, la France, cela dit, il y a des écrivains déjà, si vous voulez, oui, il faut quand même que je mette des précisions, parce que il y a des écrivains déjà comme Paul Claudel, aussi bizarrement que ça puisse paraître, qui sont quand même pas des moindres, qui avaient déjà écrit des textes et traduits d'haïku. Il y a aussi un écrivain grec qui s'appelle Georges Seferis, qui est un très grand écrivain de ces années 50 à peu près, et qui avait déjà qui ont écrit des haïkus. Donc vous voyez, il y avait quand même ça, quand même en France quelques écrivains de renom comme je vous ai dit Claudel, ou en Europe comme je vous ai dit Seferis pour la Grèce, et je pense en Italie un autre écrivain qui s'appelle Giuseppe Ungaretti, c'est pareil, lui il a écrit des textes extrêmement brefs qui se rapprochent du haïku. Donc vous voyez, il y avait quand même déjà une présence du haïku un peu latente, un peu secrète, et bon, cette chose ce goût du haïku a poussé comme une graine, si j'ose dire, et à partir des années 80, on a vu des intellectuels français, des poètes, des écrivains s'intéresser beaucoup plus au haïku, et puis après, bon, ça a été relayé par d'autres choses, enfin par des relais médiatiques, hein, qui font que le haïku obtient un grand succès.
Oui, en autre auteur, il y a également Paul Éluard, j'ai vu, en 1920, qui a écrit Pour vivre ici. Paul Éluard, c'est mon petit côté scolaire, c'est parce que j'avais étudié Les mains libres avec qu'il avait le recueil qu'il avait fait avec Maneret, pour mélanger dessin et poésie.
Oui.
Et donc pour revenir à Mathieu Basho, il a créé son école, son mouvement poétique d'une certaine manière, qu'on appelle le Shōfu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, ou est-ce que ça rejoint tout ce que vous avez dit précédemment?
C'est C'est tout à fait ce que je viens vous exposer, hein. C'est-à-dire c'est c'est le fait de concevoir le haïku comme étant un moyen enfin une sorte de pèlerinage, hein, spirituel et de réalisation spirituelle au-delà des mots.
Et donc le Japon, vous le connaissez seulement via sa littérature, les rencontres que vous avez pu faire dans le cadre de vos études, ou est-ce que vous avez eu l'occasion de le visiter ?
Non, j'ai pas eu l'occasion de visiter le Japon, hélas, mais j'ai beaucoup lu, bien sûr, Basho, grâce à des traductions dans les années 70, hein, qui paraissaient aux presses orientales de France, hein, et grâce à un traducteur qui a beaucoup fait, qui s'appelle René Sissert.
Et toujours par rapport au Japon, est-ce que vous prévoyez de visiter ?
Bah actuellement, si vous voulez, c'est un peu compliqué.
Oui, c'est pas la bonne question au bon moment, c'est vrai.
Mais non, mais j'espère bien qu'un jour j'aurai l'occasion d'aller au Japon. Ça me ferait beaucoup de plaisir. Mais actuellement, je pense qu'en dehors de la nage, ça me sera difficile.
Oui, on va rester en Anjou. Donc vous avez écrit des récits, des essais, aussi de la poésie. Depuis quand est-ce que vous écrivez ?
J'ai toujours écrit, mais bon, j'ai écrit beaucoup dans mon enfance, quand j'étais gamin, et c'est surtout après mes études de lettres que j'ai commencé à écrire, grâce à ma rencontre avec, comme je vous ai dit, une bonne fois que j'ai rencontré à 21 ans à peu près, et ça, pour moi, ça a été un déclic important, et après tout s'est enchaîné. Et en fait, j'avais adressé mon premier recueil qui s'appelle L'Or du commun, qui est d'ailleurs maintenant épuisé. Je l'avais adressé à Yves Bonnefoy. Et Yves Bonnefoy s'est dérangé, est allé au Mercure de France lui-même pour proposer mon livre à l'éditeur. Et j'en demandais pas tant et j'étais très, très surpris parce que je pensais pas que mon texte pouvait avoir cet intérêt-là, donc j'ai publié mon premier livre grâce, on va dire, à Yves Bonnefoy. Mais le plus drôle, c'est que j'avais aussi proposé en même temps un autre éditeur qui l'avait aussi accepté. Donc j'avais deux éditeurs qui s'étaient proposés pour le publier. Et c'était bon. Alors après, donc j'ai publié plusieurs autres ouvrages. Le deuxième, j'ai eu la chance d'être invité par Bernard Pivot. C'est rare pour un poète, parce que je crois qu'il y a eu Francis Ponge et Philippe Jacotet parmi les poètes qui ont été invités. Et moi, j'étais à ma grande surprise aussi invité par Bernard Pivot pour le deuxième de mes recueils qui s'appelle Bout du Monde, qui s'était extrêmement bien vendu grâce à cette émission. Bien que ce soit de la poésie, que la poésie soit quand même plus difficile dans le domaine de la vente.
Oui, et même dans le domaine, on va dire, au niveau des études ou quand on est à l'école, c'est vrai que la poésie, c'est un petit peu le genre qu'on boude, qui est assez hermétique, assez complexe.
Alors que c'est précisément l'aboutissement, le superlatif de la littérature. Enfin, c'est la poésie, c'est, si vous voulez, c'est, il y a une hiérarchie qui a été remise en cause, mais qu'il faut quand même rappeler, qui me paraît fondamental, c'est que le meilleur de la littérature, c'est la poésie. Alors, il se trouve que c'est paradoxal, parce que la poésie, c'est aussi la chose où on trouve le pire, hein. Donc, on trouve le meilleur et le pire dans la littérature. En fait, le roman, c'est une forme un peu dégradée de la poésie, hein. La forme suprême de la littérature, c'est l'écriture poétique. Bon, quand vous prenez des gens comme Depuis Villon, enfin, ou des troubadours, parce que je viens de publier aussi, vous avez peut-être vu des traductions, hein, des troubadours, c'est pareil, ça s'est très bien passé, là. Un écrivain du XIIIe siècle qui s'appelle Geoffrey Rudel, chansons pour un amour lointain, qui sont parus chez Fédérope. Et puis récemment, cette année, là, j'ai publié aussi un recueil de chansons et de Cervantes du poète troubadour occitan qui s'appelle Père Cardenal. Et tout ça, donc, actuellement, j'ai vu... alors actuellement, si vous voulez, on vient redécouvrir l'haïku, mais maintenant, je me rends compte qu'on redécouvre la poésie des troubadours, qui est absolument géniale, hein. Enfin, c'est vraiment... je pense que le lectorat à venir va s'enchanter de lire ces gens-là qui ont un rapport beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus dénudé, beaucoup plus frais, beaucoup plus direct au monde qui les entoure.
Oui, vous aimez bien retrouver, on va dire, ces genres, ces pépites du passé. Comment est-ce que vous les retrouvez ?
Pour ce qui concerne Geoffrey Riddell, c'est Yves Bonnefoy qui m'a demandé de traduire. Il m'a dit, je sens que vous êtes, d'après ce que j'écrivais, il disait, je sens que vous allez aimer ça. Vous savez, c'est quelqu'un qui procédait beaucoup par intuition. Alors, donc il m'avait proposé ça. Ça a très bien marché parce qu'il y a eu plusieurs rééditions. J'ai travaillé avec un professeur d'université américaine là, qui a fait la version du texte original. Moi, j'ai fait la traduction et le commentaire. Et après, Père Cardinal, je fouille un peu, je regarde, je lis et je trouve des choses comme ça. Et c'est pareil aussi dans le domaine de la littérature du 19e, parce que vous savez, il y a une collection qui marche très bien actuellement chez un éditeur qui s'appelle Arfuyan, qui s'appelle Ainsi parlait, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et il y a eu déjà, j'ai fait un Ainsi parlait Léon Blois qui a extrêmement bien fonctionné. Hein. Ce sont des recueils d'échantillons de dits, de maximes de l'auteur avec une préface et une note biographique assez conséquente. Et la collection est très bien partie. Hein. Et là, je viens de finir là, un Paul Valéry qui va paraître au mois de juin. Là.
C'est quoi les paysages ou les situations dans lesquelles vous puisez votre inspiration lorsque vous écrivez et que vous ne faisiez pas de théorie, et que vous ne faites pas de théorie?
Ah oui, les paysages, c'est tout à fait mon entourage quotidien. Alors, aussi bien mon entourage, l'entourage où je vis, c'est-à-dire sur les bords de la Loire, c'est-à-dire juste à l'opposé de là où habite Julien Gracq, parce que j'habite dans le Saumurois, donc je m'inspire de tous ces paysages-là, mais aussi de mes voyages, de la mer, de la montagne, mais aussi bien de la ville que de la campagne. Hein. Je ne suis pas du tout... l'inspiration... Elle est très capricieuse, hein. Donc l'écriture, en fait, je remarque qu'elle vient naturellement ou bien elle n'existe pas.
En fait, la poésie, c'est un petit peu, c'est un savant mélange entre, on va dire, forcément une certaine méthodologie, puisqu'il y a dans certaines formes des vers à respecter, une maîtrise, et un mélange aussi avec de l'intuition.
Oui, ah ben, si vous voulez, oui, vous avez très bien dit les choses. En effet, il y a une part. Alors la première chose, c'est l'intuition. Hein. C'est quand même sans intuition, ça marche pas. Ou sinon, c'est de la fabrication. Et à ce moment-là, c'est autre chose. C'est pas de la poésie. Mais l'intuition est première. C'est comme si vous voulez, comme quand on allume une flamme. Hein. Vous savez pas, sauf que on sait pas trop d'où vient l'étincelle. Ça, c'est un peu le mystère. Hein. Donc il y a la flamme, puis après il y a un travail. Il y a un travail de généralement de coupe, hein, de suppression. Enfin, en ce qui vous concerne, moi j'ai généralement j'ai un rapport comme ça assez facile dans un premier temps, puis après il y a un temps de décantation, c'est-à-dire de nettoyage. Si vous voulez, on pourrait prendre une comparaison, c'est comme si on construit un mur et puis vous avez besoin d'un échafaudage, donc il y a un échafaudage qu'il faut enlever. Mon travail après, c'est d'enlever l'échafaudage. Alors l'échafaudage, on le voit pas toujours. Et c'est ça le problème. C'est qu'on a l'impression qu'il n'existe pas alors qu'il y en a toujours un.
Ben merci, on va conclure sur un échafaudage. Merci Yves d'avoir répondu à nos questions. Donc votre livre Haïku du Japon ancien et moderne, précédé du Petit Grillon de Bachot, est disponible aux éditions Unicité pour celles et ceux qui souhaiteraient se le procurer.
Et merci Clémence pour cette interview. On se retrouve quant à nous pour la fin de cette émission, juste après Digital Introversion d'Aboukir.
I just don't
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À 19h, vous retrouverez comme chaque lundi l'Artichaut, la causerie culturelle de Radio Campus Angers. Sera suivi évidemment des classiques de votre soirée reggae roots dub. D'abord avec Mélodub, suivi de Bamboo Station. On se retrouve dès demain pour une nouvelle Covidienne. D'ici là, prenez soin de vous. Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus.